Ce matin, je voudrais voir plus spécifiquement la discipline corrective des enfants dans la famille. Max a présenté une très bonne étude sur la discipline il y a quelques semaines, un mardi soir. Mais du fait que plusieurs n'étaient pas là, je vais répéter plusieurs choses qu'il avait présentées et puis ajouter d'autres détails. Dans les études précédentes, j'ai essayé de donner une base de ce que je vais vous dire ce matin. C'est-à-dire, nous avons parlé des responsabilités des parents vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis leurs enfants. Les parents, le père et la mère sont tout d'abord responsables devant Dieu de bien remplir les rôles que Dieu leur a désignés, les rôles de mari et femme, les rôles de père et de mère et les rôles de serviteur de Dieu. Comme j'ai essayé de démontrer la semaine passée, il faut que les parents aient donc une bonne attitude biblique envers eux-mêmes, afin que les enfants s'estiment comme il faut. Nous avons parlé dans les études précédentes de l'importance de la famille devant Dieu et dans la société. Et nous avons parlé des principes de l'amour agapé, de ses implications pour nous dans notre vie de tous les jours et dans notre vie de famille. La semaine passée, j'ai essayé d'établir l'importance de l'estime de soi dans nos enfants. Et il y a 3 semaines, nous avons considéré le sens premier du mot « discipliner », c'est-à-dire « d'instruire ». S'il y a un verset de la Bible qu'un parent doit apprendre par cœur, c'est le Proverbe 22, le verset 6, que nous avons déjà cité plusieurs fois, « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Bon, je ne peux pas dire trop souvent, je crois que notre devoir envers nos enfants est de les instruire, ou comme dit le proverbe, de les orienter. Toute forme de discipline a ce but. Il y a ce qu'on appelle la discipline positive et la discipline négative, c'est-à-dire celle qui apprend d'une manière positive et celle qui apprend d'une manière négative. On dit aussi la discipline préventive et la discipline corrective. La discipline préventive, et ce que nous avons déjà vu, c'est de discipliner ou d'instruire ou d'orienter en vue d'éviter des problèmes plus tard. La discipline corrective ou négative a pour but d'arrêter une mauvaise attitude ou action et en même temps d'apprendre ou de rappeler la bonne action ou la bonne attitude désirée. Je dirais que si la discipline positive ou préventive est bonne, la discipline corrective ou négative sera moins nécessaire, beaucoup moins nécessaire. Tout ceci dit, je crois, et la Bible l'enseigne, que toute forme de discipline est bonne ou positive parce qu'elles ont en vue le salut de l'enfant. Hébreux 12, le verset 11 dit, « Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. » Avez-vous remarqué dans ce verset que la discipline corrective est pour former, ou on peut dire aussi pour orienter l'enfant. Donc il y a toujours l'idée d'instruction, même dans la correction ou la punition. Il y a 3 semaines, nous avons considéré les passages qui disent que nous sommes l'argile et que Dieu est le potier. Nos enfants sont de l'argile à être formés. Et nous sommes, nous, les parents, les potiers dans ce sens, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Sans l'aide de Dieu, ils seront mal formés. Et comme une vase mal formée, ils sont facilement cassés. Max a bien dit dans son étude que les devoirs chrétiens se résument dans deux commandements fondamentaux, enseigner et discipliner. Afin d'être bien clair, je vais me servir de 2 termes pour bien distinguer entre les 2 formes principales de la discipline. Du fait que le mot discipliner veut dire enseigner et que toutes les formes de la discipline ont pour but d'enseigner, je ne vais pas me servir du mot discipliner. Bon, les 2 termes dont je vais me servir, ou les 2 catégories, sont l'instruction et la correction. Et la correction se divise aussi en 2 catégories. La correction comme la correction d'une erreur ou est Et puis il y a la punition, la deuxième catégorie. La punition peut être la privation d'une chose ou un châtiment physique, comme on appelle couramment la fessée. L'instruction est comprise en toute forme de discipline et nous avons parlé de cela dans une étude précédente. Donc notre étude ce matin traite plutôt la correction. Max, dans son étude, a présenté des principes que les parents doivent appliquer pour construire une famille selon le plan de Dieu. Premièrement, la correction commence par l'établissement de certaines règles de conduite. Cela nous rappelle ce que nous avons vu il y a 2 semaines et aussi la semaine passée, c'est-à-dire qu'il faut de la communication. Il faut de la communication avant et après la punition. Et bien sûr, tout cela est entouré d'un amour, d'une affection familiale. On espère ne jamais arriver à la punition. Donc on instruit ou on communique le plus possible avec nos enfants. L'enfant a besoin et il a le droit de connaître d'avance les règles de la famille afin que, et aussi il a besoin de connaître la punition exacte pour chaque désobéissance. Mais je crois qu'il faut faire très attention de ne pas faire trop de règles. Et les règles qu'on fait, il faut les simplifier autant que possible. Nous ne voulons pas créer une atmosphère négative ou repressive dans nos foyers. Donc il faut veiller que les règles soient vraiment nécessaires et ne pas les établir simplement pour notre propre égoïsme ou convenance. Quand je pense à une règle qu'il faut établir dans la famille, je pense par exemple d'une règle où il ne faut pas toucher à la cuisinière, c'est tout. Parce que bien sûr, c'est pour protéger l'enfant. Nous ne sommes pas là pour dominer nos enfants, mais de les conduire, de les amener avec nous, de les orienter vers le Christ. Deuxièmement, toute correction doit être uniforme. Si vous avez établi une règle, il faut qu'il soit observé et tout de suite. Sinon, l'enfant va se dire, bon, évidemment, cette règle n'est pas importante pour maman ou papa, et il va se demander si les autres règles sont vraiment importantes aussi. En plus, les enfants perdent leur respect pour leurs parents ou n'importe quelle autre personne qui ne fait pas observer ces règles. Il est au moment où une règle n'est pas observée qu'il faut exercer la discipline corrective, ce que j'appelle la punition. Le troisième principe que Max a présenté est que la punition corporelle est un moyen de discipliner institué par Dieu. Le proverbe 23, le verset 13 et 14 dit « N'épargne pas la correction au jeune garçon. Si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas. En le frappant du bâton, tu préserveras sa vie du séjour des morts. » Et puis, le verset que nous avons déjà lu plusieurs fois, Éphésiens chapitre 6, le verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Max a dit aussi que la fessée ne doit pas être simplement la dernière ligne de défense du parent désespéré. Bon, je ne sais pas combien de fois j'ai observé des parents gronder leurs enfants quand les enfants n'obéissaient pas. Ces parents grondaient les enfants jusqu'à ce que les enfants fussent frustrés et les parents en colère. Et puis la fessée, quand elle est arrivée, elle n'était plus une punition, mais de la vengeance. Dieu dit, n'épargne pas la correction. Ce n'est pas un homme qui a dit cela, mais c'est Dieu, notre Créateur, qui nous connaît bien. N'épargne pas veut dire n'attendez pas et la donner comme il faut. Ainsi, il ne faut pas avoir peur de donner une fessée. N'épargne pas la correction, dit-il. De ne pas punir suffisamment et de laisser traîner une faute, cela apprend à l'enfant que la désobéissance n'est pas grave. On fait plus de mal, donc, par ne pas donner une fessée tout de suite que par la donner. Il y a l'exemple de Jacques qui a 8 ans. Il est maintenant 9 heures du soir. Sa mère lui dit, « Jacques, C'est l'heure de ranger tes affaires, de prendre ton bain et d'aller au lit. Jacques, il connaît sa mère parce que c'est son habitude et il sait que vraiment elle veut dire c'est l'heure de penser d'aller au lit, mais pas tout de suite. 9h10. Jacques, c'est tard. Tu dois te lever tôt demain. Range tes affaires et va prendre ton bain. Bon, il range quelques jouets, puis il reprend son jeu. 9h16. Jacques, je t'ai dit, range tes affaires et prends ton bain. Il sait que maintenant il faut ranger ses choses et va lentement en direction de la salle de bain. 9h25. Jacques, je t'ai dit de prendre ton bain. Tu ne m'obéis pas. Maintenant, tu vas recevoir une fessée. Et puis, il donne quelques petites tapes sur les fesses. Jacques, il fait semblant de pleurer. Mais Jacques n'a rien appris par tout cela, sauf que sa mère n'était pas sérieuse et qu'il peut profiter d'elle quand il veut. Un peu d'action au commencement aurait empêché que sa mère le gronde pendant presque une demi-heure et Jacques aurait appris à respecter sa mère. Plusieurs actions étaient possibles. D'abord, s'il n'était pas nécessaire qu'il va au lit tout de suite, elle aurait pu lui dire « Tu peux jouer encore 15 minutes et puis il faut ranger tes affaires, prendre ton bain et aller au lit. » La règle est établie. S'il n'obéit pas, quand c'est l'heure, il faut la punition et tout de suite. Jacques, je t'avais dit, range tes affaires. Tu ne m'as pas obéi. Viens ici, maintenant. Et tourne-toi contre le mur parce que je vais te donner une fessée. Et puis elle donne la fessée, elle donne une bonne fessée. Ensuite, si l'heure est importante, elle peut faire l'action de récompense. Jacques, range tes affaires et tout de suite, et puis viens manger un biscuit avant d'aller prendre ton bain. S'il n'obéit pas, surtout pas de biscuit. Et il faut passer à l'action physique, la punition immédiate. Pour faire obéir les enfants plus grands, si l'action ou la désobéissance ne mérite pas tout de suite une fessée, il y a le petit muscle au bas du cou qui, une fois pincé, fait très mal, mais n'est pas dangereux. Et comme ça, avec ça, on peut diriger un enfant vers ce qu'il faut qu'il fasse et veille bien sûr à ce qu'il ramasse tout comme il faut et sans se tarder comme dans le cas de Jacques. Il y a plusieurs choses à dire ici au sujet de la fessée, je crois. Premièrement, il vaut mieux, si possible, que la fessée soit justement cela, une fessée. Dieu a créé le corps humain d'une façon qu'il y a plus de muscles et plus de graisse sur les fesses. Comme cela, on peut s'asseoir plus confortablement et c'est un endroit, un très bon endroit pour donner des fessées parce que là, on peut taper et pas faire trop de mal. Parfois, il est plus facile de donner une fessée sur la cuisse qui est le prochain endroit le moins dangereux. Mais n'importe où on donne une fessée et moi, je me limite aux fesses et aux cuisses et de temps en temps, je tape les mains, surtout quand les enfants étaient plus petits. Il faut faire, n'importe où on donne la fessée, il faut faire très attention à ne pas blesser physiquement ou d'une manière sérieuse l'enfant. Parce que bien sûr, le but de la fessée est de reprendre et ne pas blesser. Deuxièmement, si on donne une fessée, il faut que cela fasse mal. Il faut le bien donner. Autrement, elle ne servira à rien. Mais encore, il ne faut pas blesser physiquement ou émotionnellement. Et c'est pourquoi il est primordial que l'on essaie de ne pas châtier un enfant quand on est en colère. Le proverbe dit pourtant, n'épargne pas la correction. Il faut le faire et il faut le bien faire. Autrement, la punition ne sert à rien sauf de frustrer l'enfant. Troisièmement, cela veut dire que la plupart du temps, quand les enfants ont dépassé un certain âge ou un certain taille ou poids, il faut que le père agisse pour sa femme ou avec sa femme. Franchement, quand un enfant a plus que 3 ou 4 ans, garçon ou fille, La mère, sauf si elle a beaucoup de force, n'arrive plus à donner une bonne fessée sans de l'aide. Soit l'enfant bouge et elle ne peut pas le tenir, soit elle ne peut pas frapper assez fort pour faire du mal. Dans un tel cas, la punition corporelle peut devenir presque un jeu pour l'enfant et une source de beaucoup de tension pour la mère. Rappelons-nous donc que Paul s'adresse au Père quand il dit « Corrige et avertisse les enfants selon le Seigneur » Éphésiens 6, le verset 4. En rapport avec cela, avec ce que je viens de dire, quatrièmement, il a été constaté, et je le constate aussi, que la main n'est pas très efficace, sauf peut-être tout au début avec les tout-petits. En plus, de frapper avec la main risque d'être dangereux parce que c'est plus lourd. Et si on frappe avec la main surtout sur la jambe ou le bras ou même sur le corps, on risque de casser un os si on frappe trop fort, surtout si on est en colère avec les tout-petits. Il y a même ceux qui disent que de se servir de sa main devient plus personnel psychologiquement et que l'enfant expérimente une attaque personnelle contre sa personne. Son estime de soi donc est attaquée. Cependant, de se servir d'un instrument n'est pas un affrontement personnel, mais c'est un instrument impersonnel qui fait mal, et c'est le parent qui, en se servant de cet instrument impersonnel, veut apprendre quelque chose à l'enfant, et c'est tout. La Bible dit, n'est-ce pas, « Si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas. En le frappant du bâton, tu préserveras sa vie du séjour des morts. » Or, cela dit, on veut me demander peut-être ce que je pense de la gifle. Moi, personnellement, je ne la fais pas et je suis contre. Je suis contre parce que d'habitude, on la fait quand on est en colère et donc on la fait plutôt par vengeance ou avec le désir d'attaquer afin de retourner un mal. En plus, au lieu d'être un châtiment, c'est plutôt une attaque psychologique et donc une attaque contre l'estime du soi de la personne. À ma connaissance, la seule fois que la Bible parle de la gifle, c'est quand Jésus dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tant lui aussi l'autre. » Et il vient de dire, Jésus, « Je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Jésus parle de la recevoir et jamais de la donner. Bien sûr, Jésus a été giflé pendant son procès, mais il ne donne pas d'enseignement à ce moment-là. Et il y a peut-être d'autres exemples de personnes ou de gens giflés, mais il n'y a pas d'autre enseignement à ma connaissance dans la Bible au sujet de la gifle. Peut-être on veut demander aussi à quel âge faut-il commencer à donner des fessées. Bon, pour les tout petits, jusqu'à 6 ou 7 mois, la fessée ne sert à rien sauf de relâcher les tensions du parent. Et ce n'est pas là le but d'une fessée. Je dirais que quand l'enfant peut comprendre le mot « non », peut-être il ne peut pas le prononcer, mais il le comprend. Et dès qu'il peut attraper ou tenir des choses dans ses mains, c'est le moment à commencer avec les fessées. Parce que si on attend jusqu'à ce que l'enfant devienne mobile, cela va être beaucoup plus difficile de lui apprendre à ne pas toucher à certaines choses, à ne pas faire certaines choses. Et quand je dis fessées pour les petits comme cela, je pense plutôt à une tape sur la main ou sur la cuisse. Du fait que l'enfant porte une couche, cela fait pas grand-chose sur les fesses, sauf si on veut prendre le temps pour enlever la couche. Pour les jeunes enfants surtout, il est important que la punition arrive tout de suite, car autrement ils vont oublier la faute et ne comprendront pas pourquoi on les a tapés plus tard. Bon, jusqu'à quel âge faut-il donner des fessées? Bon, je ne suis pas sûr, moi. Je peux vous dire que mon père m'a donné des fessées jusqu'à mon adolescence et je ne crois pas que mon estime de soi a trop souffert. Mais avec des adolescents plus âgés, il vaut mieux peut-être enlever les privilèges que de donner des fessées. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Une des questions qui m'a été posée quand je lui ai demandé d'écrire des questions est celle-ci. La discipline des enfants, comparer les deux extrêmes, trop émettre ou correction adducive, et le juste milieu. Nous avons touché cette question déjà un peu, mais brièvement, trop de contrôle ou une correction abusive peut faire de l'enfant soit un enfant rebelle, soit un enfant trop dépendant des autres. Je peux dire aussi que l'enfant qui a reçu une correction abusive dans sa jeunesse risque lui aussi d'être abusif parce que c'est ce qu'il a appris, ou il risque de trop permettre par réaction à son passé. Par contre, pas assez de contrôle ou de trop permettre fait de l'enfant un enfant gâté et égoïste, un enfant qui n'a pas de respect pour ses parents ni pour qui que ce soit, un enfant qui peut-être est méchant et surtout il n'est pas sage. Donc, bref, c'est presque impossible qu'il ait du respect pour de l'autorité. Il faut dire aussi que, bibliquement, de trop permettre n'est pas l'amour. Parce que le vrai amour que nous avons étudié veut dire ce qui est juste et veut ce qui est juste et bien pour l'enfant. Le parent qui aime vraiment son enfant comme il aime Dieu apprendra à son enfant les principes de Dieu. Et les principes de Dieu comprennent la discipline de soi. Et l'enfant apprend la discipline de soi par la discipline que ses parents exercent envers lui. De ne pas trop permettre veut dire aussi de ne pas trop donner des choses matérielles. On a dit que le caractère est détruit plus rapidement par la prospérité que par l'adversité. Et je crois que c'est vrai. Bon, qu'est-ce que c'est le juste milieu? Bon, il faut que d'abord le parent aime Dieu en premier. S'il aime Dieu et se soumet à lui, il va suivre ses conseils ou ses enseignements. Il va montrer donc beaucoup d'amour à ses enfants, et l'amour comprend la fermeté et la constance dans la correction. Peut-être si je mentionne des autres principes que Max a présentés, nous trouverons une réponse plus satisfaisante. Le quatrième principe donc est que la punition doit être juste, c'est-à-dire correspondre à la gravité de la faute. Et puis Max a ajouté que les accidents ou les erreurs, même importantes, ne constituent pas normalement un cas de désobéissance. Il est peut-être là, dans le domaine des accidents, que les parents risquent d'être trop sévères. Un accident, c'est un accident, et c'est tout. Or, si c'est une inattention ou une négligence ou un manque de soin, cela c'est autre chose. Par exemple, quand vous mangez, vous dites à l'enfant de bien remettre son verre en haut de l'assiette et pas à côté du bord de la table. Bon, s'il remet son verre à côté du bord de la table et il le fait tomber, ce n'est plus un accident, c'est une désobéissance ou une négligence. Et dans ce cas, il faut faire quelque chose afin de lui apprendre et de lui rappeler à faire plus attention. Cinquièmement, un autre principe fondamental de la correction dans la famille est la coopération du père et de la mère. Les parents doivent apparaître devant les enfants comme n'ayant qu'une seule volonté sur une question de correction donnée. Bien sûr, cela implique une communication entre le père et la mère et un accord. Cela implique aussi une communication entre les parents et les enfants afin que les règles et les conséquences de désobéissance soient bien communiquées et comprises. Encore, avec cela, je répète que la plus grande responsabilité pour corriger incombe au père, qui est le chef de la famille. La mère exercera